RCF.
Michel Rousselet, vous étiez en train de nous raconter l'histoire de Sophie Germain. Je crois que cette jeune femme vous intéresse particulièrement parce que c'est une des mathématiciennes connues à une époque où cette discipline était quand même très peu accessible aux femmes.
Elle n'est pas trop connue. Il y a un lycée Sophie Germain à Paris. J'ai ma petite fille qui y est allée. Elle ne savait pas au début qui était Sophie Germain. Je reprends un peu son histoire parce qu'elle est exemplaire. Elle s'est faite toute seule comme mathématicienne. On est au début du 19e. Elle a voulu suivre les cours de l'école polytechnique qui venait d'être créée. C'est là où on rencontrait les meilleurs matheux. Mais elle ne pouvait pas s'inscrire en tant que femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un pseudo. Elle s'est appelée Monsieur Leblanc. Et à l'époque, les étudiants pouvaient correspondre, s'ils n'étaient pas là en présentiel comme on dit aujourd'hui, ils pouvaient correspondre avec les professeurs. Et donc, c'est ce qu'elle a fait, elle a écrit des lettres et elle a été remarquée. On a remarqué que c'était quelqu'un vraiment de très très brillant. Ce qui fait que son anonymat est tombé. Et elle a continué sa carrière en faisant des communications, mais avec beaucoup de difficultés, parce qu'elle ne pouvait pas accéder à l'Académie des sciences. Elle a correspondu avec le plus grand mathématicien de l'époque, qui est un Allemand, Carl Friedrich Gauss. Et lorsque Napoléon a envahi les principautés allemandes, y compris celui où demeurait Gauss, comme elle avait, par sa famille, des relations avec l'armée, elle a pris sous son aile protectrice Gauss et elle a veillé à ce qu'il ne lui arrive rien. En Allemagne, le général en chef qui commandait les troupes françaises a rencontré Gauss et lui a dit que c'était donc grâce à Monsieur Leblanc, qui n'était autre que Sophie Germain, qu'il devait cette protection et ce traitement de faveur. Et là, Gauss a été sidéré, il a demandé à la rencontrer et il lui a fait par lettre une série de compliments en disant que, en tant que mathématicien, elle était déjà géniale, mais qu'en tant que femme, elle était 10 fois plus géniale, parce que compte tenu des obstacles qu'elle avait dû vaincre, c'est qu'elle avait vraiment une intelligence en mathématiques vraiment hors du commun. De la part du prince des mathématiciens, c'est quand même quelque chose. Dernière anecdote sur Sophie Germain. Quand elle est décédée, on l'a enterrée au Père-Lachaise. Et pour remplir les papiers administratifs, on l'a présentée comme mathématicienne. L'employé d'administration qui était là a dit « Quoi ? Ça n'existe pas, ça. Je mets rentière.
» Voilà. Sophie Germain est sortie de l'oubli grâce à vous, Michel Rousselet. Alors, le 19e siècle est un siècle charnière dans l'histoire.
C'est un siècle révolutionnaire.
C'est vrai aussi pour les maths ?
Ah oui. Vous avez une grande révolution qui avait été entrevue par Gauss, mais Gauss avait un tel souci de la perfection qu'il ne publiait pas quand il n'était pas trop sûr que ce ne serait pas prématuré. Mais ça a été poursuivi par son élève Riemann, qui travaillait à l'université de Göttingen, et qui, à la suite d'un Russe et d'un Hongrois, a créé ce qu'on appelle la géométrie non euclidienne. Depuis les Grecs, en passant par les Arabes, en passant par les mathématiciens européens du XVIe et XVIIe, on avait tenté de démontrer le fameux axiome des parallèles. C'est-à-dire, dans le plan, par un point extérieur à une droite, on ne peut faire passer qu'une seule droite qui soit parallèle à la première. Ça paraît évident. Donc, si c'est évident, on doit pouvoir trouver une démonstration élémentaire. En 2000 ans, on ne l'a jamais trouvé.
Parce que c'est faux ?
C'est ni faux ni vrai. Ça dépend des axiomes que vous prenez. Vous pouvez prendre ça comme axiome, et vous avez ce qu'on appelle la géométrie euclidienne. Vous pouvez réfuter, dire « moi, je suis pas le contraire ». Et vous avez une géométrie non euclidienne.
Et ça, c'est révolutionnaire ?
Ben oui, parce qu'on croyait que la géométrie, si vous voulez, il n'y en avait qu'une. Or, voilà déjà qu'on est à la tête de trois. Et comme dit Poincaré, grand mathématicien de la fin du 19e français et du début du 20e...
Le bien nommé.
Il dit une géométrie n'est ni plus vraie ni plus fausse qu'une autre, elle est simplement plus ou moins commode. Seulement, les géométries non euclidiennes, vous avez un grand bonhomme qui va montrer dans quel cas on peut s'en servir, et ce bonhomme, c'est Albert Einstein, qui va montrer que à des grandes vitesses et pour concevoir la relativité générale, il va dire d'ailleurs qu'il a abominablement souffert et qu'enfin il vient de comprendre un peu les mathématiques et leur rôle. Il va donc utiliser des géométries non euclidiennes.
M'oblige pas à y aller. Tu peux continuer à me donner des cours.
Je t'ai enseigné tout ce que je sais. Le sujet est clos, d'accord? On en a discuté ad nauseam.
C'est quoi ad nauseam?
Oh, tu sais pas? J'en connais une qui doit aller à l'école.
Extrait du film Marie, du réalisateur Mark Webb, sorti en 2017.
Bonjour mademoiselle Stevenson.
Qui peut me dire combien font 3 plus 3?
Mais tout le monde sait que ça fait 6.
Marie, tu veux bien te lever? Saurais-tu me dire combien font, disons, 135 multiplié par 57? Très bien.
7695. La racine carrée est 87,7. Et des poussières. Sinon, ça veut dire quoi, ad nauseam?
La suite de l'histoire.
Donc, le 19e siècle est marqué notamment par cette découverte. Alors, je ne sais pas si c'est une découverte, d'ailleurs, ou c'est une autre manière de penser.
Là, vous posez une question très, très ouverte. Alors, moi, j'ai mon opinion là-dessus. Mais j'ose pas trop la donner parce que je suis en contradiction avec des mathématiciens bien plus importants que moi qui, eux, pensent que c'est une découverte parce que les objets mathématiques ont en quelque sorte une sorte d'existence dans le monde réel. Alors, moi, je ne le pense pas. Je pense que tout est invention. Ce sont des concepts, des idées qui sont inventées. C'est mon idée.
C'est presque philosophique, en fait.
C'est de la philosophie, oui, bien sûr. Mais si vous voulez, je suis en position un peu humble, parce que quand je vois un grand matheux comme Alain Cohn, médaille Field, je me dis, ben, j'ai pas son idée, je la partage pas, mais après tout...
Vous avez le droit.
Oui, j'ai le droit, bien sûr, j'ai le droit, mais je me sens petit quand même, si vous voulez. Je maintiens quand même mon idée.
Ça a quelque chose à voir, les maths, avec la révolution industrielle?
Oui. Parce que la révolution industrielle, c'est, si vous voulez, la mise en œuvre de nouvelles techniques de production.
De rentabilité.
De rentabilité. D'une nouvelle attitude par rapport au savoir. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que les mathématiques, c'est utile. Et qu'il vaut mieux former des mathématiciens. Donc, les mathématiques, avec la naissance de la révolution industrielle, ont changé un peu de caractère. Auparavant, elles étaient universalistes, on peut dire. En Europe, au XVIIe ou XVIIIe, on échangeait des lettres de la Pologne à la France, en passant par l'Italie. Tout le monde écrivait en latin, quelquefois en grec, mais en latin. Et à partir de 1850, c'est la période des nationalismes montants, les mathématiques prennent un caractère national, qui va se traduire jusqu'à la caricature par une opposition entre les deux plus grands mathématiciens de la fin 19e et du début 20e, qui sont David Hilbert et Henri Poincaré, un Français et un Allemand. Ben oui, on a essayé d'opposer vraiment ces deux mathématiciens. David Hilbert, il était très bien, tiens, je vous raconte une petite histoire. Une femme, éminotaire, dont Albert Einstein a dit que c'était un génie en mathématiques. Alors comment est-ce qu'elle a appris les mathématiques? Grâce à son père, qui était professeur de mathématiques à Göttingen. Et David Hilbert et Félix Klein, deux des plus grands matheux, devant le talent de cette femme, disent « Il faut absolument que tu poses ta candidature pour être professeur à Göttingen. » Elle pose sa candidature, elle est refusée. Et à ce moment-là, David Hilbert, en colère, déclare aux professeurs qui ont voté, il leur dit « Messieurs, je ne savais pas que notre université ressemblait à un établissement de bains et douches où on sépare les hommes des femmes. »
Michel Rousselet, racontez-nous l'histoire de la machine à calculer.
Ah, la machine à calculer. Cette histoire-là, elle est longue parce que c'est l'histoire des instruments de calcul. Alors, les instruments de calcul commencent avec les abaques romaines, les tables à calculer où on a des pions avec les bouliers. C'est la même chose. Un boulier, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Un boulier chinois ou japonais, ça fonctionne comme une table à calculer romaine. Hein. Donc on déplace des pions pour faire des calculs. Il y a des experts. Et puis, le grand tournant, c'est le 17e avec Pascal, Blaise Pascal, qui, pour aider son père Étienne, lequel était contrôleur général des impôts, et son fils qui avait appris les maths, la légende dit qu'il a appris à 3 ans tout seul, ce qui ne m'étonne pas, moi, personnellement. Et donc, il a voulu aider son père en construisant la première machine à calculer mécanique de l'histoire, la Pascaline, qu'on peut voir au Musée des Arts et Métiers à Paris. Il y a encore quelques exemplaires.
Et puis après,
alors après, on a eu Charles Babbage, au 19e, qui, si vous voulez, en s'inspirant des cartes perforées des métiers à tisser jacquard, a conçu, sans jamais pouvoir le réaliser de son vivant, une première machine à calculer qu'on peut appeler un ordinateur, puisqu'il y avait un système de calcul, mais il y avait aussi une mémoire. Et puis après, on trouve les ordinateurs qui reposent sur l'électronique.
Est-ce qu'on peut dire quelque chose des probabilités ?
Ah, les probabilités commencent par quelque chose de très futile, c'est les jeux de dés. Les jeux de dés étaient très populaires à Rome, ils sont passés de là au Moyen-Âge à tous les pays européens, on jouait au dés partout. Au XVIIe siècle, à la cour du roi, on jouait au dés, on jouait de l'argent. Et le premier qui s'est posé la question, c'est un Italien qui s'appelait, on a francisé son nom, Jérôme Cardan. Il était joueur. Il se demandait simplement quel était le nombre de ses chances de sortir un 6 en lançant 3 dés. Alors il a eu une idée très très simple, dont on peut servir pour enseigner des probas à des jeunes élèves. C'est que la chose devient facile à voir si on a 3 dés de couleur. Parce qu'on s'aperçoit qu'avoir 6 bleus, 1 rouge et 3 jaunes, c'est pas la même chose qu'avoir 6 rouges, 3 bleus et 1 jaune. Autrement dit, si vous avez 3 dés, vous avez 216 combinaisons. 6 par 6 par 6.
Ça marche pour le loto, ça ?
Les probabilités, bien sûr. Mais je vous décourage de jouer au loto parce que le nombre de chances de gagner, c'est... Par contre, il y a des gagnants.
Il y en a quand même.
Il y en a toujours un.
Merci, à demain.
Je vous en prie.